Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Chers auditeurs, aujourd'hui, je vais parler de la Chine et cette chronique s'intitule « La métamorphose du français en Chine ». Du franciscain Guillaume de Rubruck, qui fut envoyé en ambassade par le roi Saint-Louis auprès du Kang Mong en 1253, une vingtaine d'années avant l'arrivée de Marco Polo, auteur du livre des merveilles du monde, aux nombreux voyageurs et essayistes contemporains, en passant par Victor Segalen, auteur de René Ley, André Malraux, auteur de La condition humaine, Lucien Bodard, auteur de Monsieur le Consul, Jean Lévy, auteur de Le grand empereur et son autorité, et Alain Perfit, auteur de, comme vous le savez, Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, pour ne citer qu'eux, on peut affirmer sans la moindre hésitation que la présence et l'influence des Français en Chine est beaucoup plus ancienne et importante qu'on ne le croit communément. Grâce à l'expérience accumulée, les Français, parmi d'autres, recueillirent une série d'images et de perceptions qui se renforcèrent naturellement et se fondirent à la fin du XIXe siècle dans ce que l'on peut appeler un nouvel exotisme. Cet exotisme aux antécédents riches et complexes remontait en réalité au règne de Louis XIV, lequel avait favorisé l'expansion des missions françaises en Chine, à la fois pour des motifs religieux et pour accroître son prestige. La France royaliste n'attendit guère longtemps pour demander à son académie de mettre à l'ordre du jour l'étude de la langue et de l'histoire chinoise. Ce fut le grand début de la sinologie en Occident. La première chaire de chinois dans le monde occidental a été créée au Collège de France en 1813. Il est passionnant de noter que les grands témoins français, outre les jésuites toujours présents, furent surtout au XXe siècle des poètes Claudel, Segalen et Saint John Perse. Avec La condition humaine, roman publié en 1933, André Malraux a probablement été le premier romancier à attirer l'attention des lecteurs français sur les événements à la fois passionnants et terribles survenus en Chine à partir des années 20. Il est particulièrement intéressant de souligner ici que le président Richard Nixon, désireux de préparer le terrain de sa rencontre historique avec Mao Tse-tung, en février 1972, invite juste avant André Malraux à la Maison-Blanche. Le dirigeant américain sait qu'il est très important de le consulter. Au fil de l'entretien, il prend bonne note de sa rhétorique mystique, clé s'il en est, afin d'accéder au royaume de la pensée chinoise. Malraux, qui avait eu, quelques semaines auparavant, un entretien avec le président Mao, confie à Nixon, je cite, « Vous allez avoir affaire à un colosse, mais à un colosse qui sent la mort approcher, un colosse obsédé par le fait qu'il n'a pas de successeur. » Mais revenons à l'influence française en Chine, qui, même si elle est plutôt méconnue dans ses réalités successives et dans son fonctionnement, possède des qualités et des ressources indéniables. Religieuses, culturelles, éducatives, politiques et économiques assurément, ces influences existent depuis longtemps. Mais si l'on veut mieux préparer l'avenir, il est toujours important de maintenir les leçons du passé. Il existe en effet une aventure française en Chine qui en son temps a marqué de nombreux esprits. Il s'agit de notre présence à Shanghai, laquelle a tout de même duré un siècle, de 1849 à 1949. Les Français de Shanghai. N'est-ce point Jean-Paul Chang, directeur des investissements dans une compagnie d'assurance en France, qui a écrit dans l'Expansion du mois de novembre 2003, je cite, « La France est le seul pays à avoir réussi globalement et durablement en Chine avant la défaite de 1940. Sans la France, des villes comme Shanghai ou Tianjin ne se seraient pas développées comme elles l'ont fait. » Prononcé longtemps après la disparition de la concession française, de tels propos méritent d'être retenus et prouvent que nos concitoyens, quand ils le veulent, sont aussi des bâtisseurs très appréciés. On peut regretter que dès l'installation de la Jeune République populaire en 1949, l'enseignement des langues étrangères, autres que le russe, fut hélas pratiquement abandonné. 15 ans plus tard, en 1964, c'est grâce à l'action vigoureuse et stratégique du général de Gaulle, qui fut le premier à reconnaître en Occident le gouvernement communiste, que l'on assista à un renouveau spectaculaire des échanges culturels, en 1965, l'université de Nankin recruta 20 professeurs de français qui l'enseignèrent à 460 étudiants. Notre langue et notre culture retrouvaient un peu d'influence et certains Chinois encore tournés vers la France se souvenaient avec joie que Sun Yat-sen, le père spirituel de la Révolution, avait énormément apprécié Voltaire et Diderot. L'embellie, vous le savez, fut de courte durée. Il fallut attendre la fin des années 80 pour repartir sur de bonnes bases. Lors de mon premier voyage à Hong Kong en 1995, il m'a été donné de rencontrer un homme d'affaires français, Claude Moreno, dont le dynamisme m'a vraiment plu. Après avoir longuement conversé avec cet homme, un pionnier du renouveau franco-chinois, ayant une solide expérience de l'Empire du Milieu, j'ai tenu à écrire un livre sur son expérience, il s'agit d'un patron français en Chine, afin de montrer aux jeunes Français qu'il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. C'est grâce à l'action soutenue de quelques hommes et femmes très ouverts que le capital de sympathie entre la France et la Chine a souvent été préservé. Malgré les bouleversements politiques énormes qui ont eu lieu en France comme en Chine, depuis 70 ans, un petit groupe de lettrés a réussi à garder vivants des contacts. Du côté chinois, quelques noms restent emblématiques. Chang Cheng, 1899-1996, auteur d'un récit autobiographique très émouvant, « Ma mère », préfacé en son temps par Paul Valéry. On peut citer encore Pakin ou Dai Wangshu ou encore La Ta Kang, des classiques talentueux. L'Alliance française revient de loin en Chine. Alors qu'au début du XXe siècle, des comités s'étaient formés dans plusieurs villes, à la fin des années 40, le réseau disparaît. Le retour ne se fait qu'en 1953, avec la création de l'Alliance de Hong Kong. En 1980, Macao accueille à son tour une antenne. Dans les deux cas, le succès dépasse les espérances. En 1989, les autorités chinoises décident enfin d'élargir le système d'éducation en favorisant des partenariats avec l'étranger. Depuis cette date, en à peine 20 ans, 15 alliances françaises sont créées de toutes pièces. Elles forment aujourd'hui plus de 26 000 étudiants. Elles connaissent un succès sans précédent. Le réseau a été notamment un acteur majeur lors de l'année de la Chine en France et durant la semaine francophone qui est fêtée chaque année depuis 2003. À présent, dans toute la Chine, au moins 200 établissements enseignent le français. Dans le cadre strictement universitaire, 86 départements proposent d'apprendre notre langue contre 30 en 2002. Signe fort de cette montée en puissance, nos experts linguistes étaient 44 en 1999, 140 en 2004, plus de 300 en 2010. En 2011, plus de 70 000 Chinois apprennent le français à l'université. Ces étudiants bénéficient d'un corps professoral d'environ 700 enseignants. L'évolution est donc plus que positive, même si les classes sont bien chargées. Dans son réseau fort, avons-nous dit, de 15 implantations, l'Alliance emploie 275 professeurs. Si les Chinois se passionnent pour la langue et la culture française, la réciproque est tout aussi vraie du côté français. Preuve, s'il en fallait, une de plus, du bon fonctionnement du dialogue des cultures entre nos deux pays. L'un des meilleurs témoignages est donné par l'association France-Chine Éducation qui a été créée en 2007. Son président, Jean-Pierre Lorenzatti, confie qu'il y a en France à peu près 40 000 étudiants chinois. Sur ce nombre, 81% paient leur séjour à leurs frais. Ils étudient principalement en sciences sociales. 18% d'entre eux apprennent les sciences et la technologie. Actuellement, 5 000 étudiants français sont en Chine. Autre élément statistique intéressant, l'école polytechnique accueille, elle, 132 étudiants chinois. Quelques autres chiffres à retenir. Aujourd'hui, plus de 500 lycées et collèges enseignent le chinois en France, auxquels s'ajoutent 40 établissements français à l'étranger, 2 000 élèves apprennent le chinois dans l'enseignement primaire, 30 000 dans le secondaire et plus de 18 000 dans le supérieur. La montée en puissance des lycées et collèges devrait permettre de former 50 000 élèves à la langue chinoise d'ici 5 ans. Pour les meilleurs connaisseurs, il ne suffit pas de répéter « la Chine, c'est important, il faut la connaître », attirer les meilleurs sujets, bref, créer du flux. Aussi faut-il se féliciter que les grandes écoles de commerce françaises soient de plus en plus présentes et actives. Si certains échecs retentissants ont eu lieu dans le domaine économique, ils ne sauraient masquer et faire oublier les nombreuses réussites. Dans le palmarès des gagnants, nul doute que Carrefour vient en tête, en moins de 12 ans. La société a su répondre à la demande des consommateurs, ce qui lui a permis d'ouvrir aujourd'hui plus de 116 magasins. Le succès est éclatant avec 1 million de clients par jour. 98% des 40 000 employés sont chinois. Une autre société, L'Oréal, retient également l'attention des femmes chinoises modernes à Shanghai, pour ne citer que cette ville phare, d'immenses panneaux publicitaires incitent à acheter les produits cosmétiques haut de gamme de cette grande maison française. L'Oréal, prononcé Oulaya en chinois, signifie la beauté qui vient d'Europe. La société qui avait des contacts privilégiés depuis très longtemps au plus haut niveau de l'État chinois a su s'implanter au meilleur moment, c'est-à-dire en 1996. L'état-major du groupe savait parfaitement ce qu'il faisait. Il avait les informations les plus précises et surtout les introductions essentielles. Alexis Perakis Valla, le patron de L'Oréal Chine, a eu l'amabilité de me fournir récemment les dernières statistiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1998, le chiffre d'affaires de L'Oréal s'est élevé à 26 millions d'euros. Je dis bien en 1998. En 2010, il atteignait 1 milliard d'euros juste derrière le marché américain et le marché français. En 1998, L'Oréal offrait 4 marques, aujourd'hui 18. Toujours en 1998, il y avait un siège social et une usine. Aujourd'hui, outre le siège social, 2 usines fonctionnent. S'ajoutant à cela, un centre de recherche et d'innovation et 4 centres de distribution. En 2010, dans tous les domaines, L'Oréal est le deuxième annonceur en Chine. Dans l'avenir, grâce entre autres au marché chinois, L'Oréal occupera la place qu'elle mérite, c'est-à-dire la première. On ne réalise pas suffisamment en France comme en Occident que sur 1,5 milliard de Chinois, au moins 250 millions d'entre eux ont un pouvoir d'achat qui égale ceux des Européens ou des Américains aisés ou très aisés et que 200 autres millions appartiennent aux classes dites moyennes. Donner ces chiffres, c'est aussi insister sur le fait que les écarts se creusent au sein de la population, mais en même temps, ils permettent de souligner le potentiel énorme qu'offre la Chine en termes de développement économique et sociaux. Lors d'une de mes visites récentes à Shanghai, il m'a été donné de constater que dans cette métropole du XXIe siècle vibre un vrai désir de France. Comment expliquer l'immense succès du pavillon français de l'exposition de Shanghai? Pas moins de 10 millions de visiteurs sont venus l'apprécier. Pour l'ensemble de l'exposition, il y a eu 71 millions de visiteurs. Tout simplement parce que dans la mémoire collective existe certainement un vague souvenir ému de la Shanghai d'avant 1940, lieu de tous les possibles, en misant plus sur le romantisme que sur l'audace, plus sur la douceur de vivre, mettant en avant des images classiques de Paris et de la France, plus que l'innovation à tout prix. La France a offert du rêve, beaucoup de rêves, choix payant et signe fort que d'immenses possibilités existent entre les deux peuples. À Shanghai, il est évident que la France jouit d'une solide réputation auprès des nouvelles élites. Nul doute que l'espace de notre langue, loin de régresser, progresse avec une vigueur encore insoupçonnée, et ce jusqu'en Chine, nouvelle preuve, s'il en fallait une de plus, du nouveau rayonnement du français dans le monde. La fascination culturelle réciproque entre la France et la Chine, on la retrouve pleinement dans deux palais mondialement connus, la Cité interdite créée par les Ming au XVe siècle et Versailles, œuvre de Louis XIV. Le dédale architectural de la Cité interdite en dit long sur le goût des Chinois pour la stratégie. En fait, stratégie et peinture sont au cœur de la réalité chinoise. La peinture permet en effet de s'ouvrir à ce qui n'est pas soi pour mieux accéder à d'autres sources d'intelligibilité. L'une des clés du mystère chinois, du penser autrement, se trouve dans la réflexion autour de la peinture qui est essentiellement réceptivité, accueil. Plus le temps passe, plus je réalise à quel point la France comme la Chine, chers amis, excepté celle très mouvementée de la révolution culturelle, partagent ensemble des expériences uniques, l'art de la cuisine, l'art du roman, l'art de l'amour. Il suffit de relire les pages puissantes, si évocatrices de la princesse de Clèves, de Madame de la Fayette, et certains contes, légendes ou romans chinois comme Belle de Candeur de la période Ming, pour apprécier à travers la lecture de ces récits l'étonnante subtilité d'esprit supérieur, je veux dire raffiné, ayant réussi à donner de l'amour une image et une réalité infinie. Le témoignage magnifique de certaines de ces affinités transcendantes, on le retrouve certainement dans l'exemple des pères jésuites qui, depuis plus de 400 ans, ont multiplié les liens, les ponts avec le pays des fils du ciel. La révolution communiste en marche. Les pères jésuites ont été obligés de s'installer d'abord à Macao, ensuite à Taïwan. Ils en ont profité pour mettre en œuvre, à partir de 1952, la rédaction d'un grand dictionnaire polyglotte afin de rendre compte des évolutions du chinois moderne. Devant l'ampleur grandissante du projet naquis dans les années 60, l'idée d'un lancement d'une fusée à 3 étages, d'abord un petit dictionnaire de 5 à 6 000 caractères et de 50 000 expressions, il vit le jour en 1976. Ensuite, un dictionnaire intermédiaire, le dictionnaire des caractères chinois, fut publié fin 1999. Enfin, le grand dictionnaire Ritsi, paru en janvier 2002 aux éditions Desclée de Brouwer, véritable banque de données encyclopédiques de 13 500 mots chinois, le Ritsi est le plus important dictionnaire chinois-français jamais réalisé. Il recense 300 000 expressions des plus anciennes aux plus récentes. C'est un travail qui plonge au plus profond de la culture et de l'histoire chinoise dans la mesure où 2000 de ces caractères remontent aux origines de l'écriture, c'est-à-dire au XIIIe siècle avant notre ère. Dans l'un de mes derniers livres, « Désir francophone, désir francophile », dans lequel je consacre un chapitre sur la Chine, apparaît plusieurs fois le nom du savant François Cheng. Je le cite « Je suis devenu un miroir tendu vers les Français pour qu'ils voient la culture chinoise et vers les Chinois pour qu'ils redécouvrent leur propre culture. Pour les Chinois, la France représente une culture de raffinement complémentaire du raffinement chinois. La France est l'autre empire du milieu. C'est le pays de l'Europe le plus ouvert à l'universel. » Citons encore les paroles lucides de François Cheng. La France, à un moment où la Chine est en mutation accélérée, où la perception par l'étranger du monde chinois est en pleine évolution, reste un pôle d'attraction, car le pragmatisme anglo-saxon ne sera jamais complètement satisfaisant pour un pays comme la Chine. En prenant conscience de son rôle, la francophonie se libérera d'une tendance à la frilosité, au repli sur sa communauté et affirmera sa générosité, son sens de l'accueil. Écoutons donc, deux fois plutôt qu'une, aussi bien la leçon de François Cheng que celle des pères jésuites, respectueux du dialogue profond et irremplaçable entre les cultures. Je vous remercie et à bientôt, chers amis. Au revoir.